Toutes les familles ont leurs traditions. La nôtre, manifestement, est de tromper son mari. J'ai longtemps cru pouvoir y échapper, mais j'ai présumé de mes forces. Pourtant, chacun le sait, les chiens ne font pas des chats. D'ailleurs, c'est en allant promener le mien que c'est arrivé.
« Les enfants font la sieste, je sors Max !»
ai-je chuchoté en articulant à pleine bouche pour qu'Antoine me comprenne sans prendre le risque de réveiller les petits que j'avais mis si longtemps à endormir. J'ai dévalé l'escalier, accroché à la laisse, sans la moindre idée de la déflagration qui m'attendait. On connaît bien la micro-action qui entraîne des répercussions inattendues, le fameux effet papillon. Ça ne m'empêche pas de m'aventurer dans un labyrinthe de conjectures. Le petit jeu qui consiste à réécrire l'histoire avec des si ne sert qu'à se faire du mal. Mais c'est une tentation à laquelle je n'essaie même pas de résister. Et si j'avais laissé Antoine y aller? Ou si, pour une fois, Antoine s'était proposé d'y aller? Si je n'avais pas cessé depuis longtemps d'espérer qu'il m'aide sans avoir besoin de le formuler? Si j'avais continué à me battre pour le partage des tâches domestiques, plutôt que de céder par faiblesse, facilité ou mimétisme séculaire. C'est vrai, j'ai abdiqué. Plus exactement, je me suis laissé emporter par une succession de petits renoncements. Il arrive un jour où l'on se dit « je vais le faire moi-même, ça ira plus vite ». Où l'on concède à l'autre une victoire dont il n'a même pas conscience. Car la guerre n'a fait rage qu'en notre fort intérieur et que l'adversaire ne s'est à aucun moment rendu compte des hostilités en cours. J'ai fait mienne la doctrine selon laquelle, dans son couple comme dans la vie, il faut choisir ses combats. Après 10 ans de mariage, Antoine a réussi son coup. J'ai intégré l'idée que ça m'épuise moins d'accomplir les besognes quotidiennes, dont il ne soupçonne parfois même pas l'existence, que de lui réclamer de les faire. Au fond, je ne pense pas que ce soit vrai, mais j'ai besoin d'y croire pour continuer. Je me demande rétrospectivement s'il n'aurait pas mieux valu pour tout le monde que je lui hurle d'aller le promener lui-même, ce foutu chien. Alors on se serait disputé, je ne serais pas sortie, et rien de ce qui s'est produit par la suite n'aurait eu lieu. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, parce que j'ai choisi de tourner les talons plutôt que de gueuler, comme ma mère 40 ans avant moi. Ça veut dire quelque chose de nous, quelque chose que je ne croyais pas partager avec elle. J'avais tort. Je suis tombée nez à nez avec lui, au beau milieu du passage piéton de la rue de Courcelles. Je me demande d'ailleurs pourquoi nous avions tous les deux choisi de traverser à cet endroit-là, dans les clous, alors que plus aucune voiture ne circulait dans Paris. Un réflexe hérité de la vie d'avant, ou peut-être une façon de se raccrocher à la normalité. Lui, son masque sous le menton, ses Nike et son maillot trempé. Comme tant d'autres pendant cette période, il s'était remis au footing. Il aurait pu ne pas s'arrêter quand nos regards se sont croisés. Mais en ces temps d'angoisse, nous avions tous besoin de liens, et le moindre visage familier devenait un espoir d'amitié. La seule fois où nous nous étions parlé remontait à 2 ans environ. Il avait accompagné un de ses clients, un braqueur repenti, sur le plateau de mon émission. En régie, pendant que la présentatrice interviewait l'ancien escroc, il m'avait glissé d'un ton pince sans rire. Demandez-lui où il a planqué l'argent. Face à mon silence, mi-amusé, mi-hébété, il m'avait glissé un clin d'œil. On devrait se méfier des clins d'œil. Personne n'en fait dans mon entourage. J'y suis sans doute d'autant plus sensible. C'est fou tout ce qu'on peut dire en 1/100 de seconde avec un simple battement de paupières. Je me rappelle qu'à l'époque, je ne sais pas pourquoi, je m'étais sentie soutenue. Et ça m'avait fait du bien. J'avais pris son clin d'œil, aussi furtif et anodin soit-il, comme un clin de cœur. Un détail m'avait frappé après l'enregistrement. Il avait posé la main sur l'épaule de son client et l'avait félicité avec beaucoup de sollicitude, de la fierté même, et pourtant avec une certaine retenue qui indiquait une grande humanité dans son rapport à l'autre. Ils étaient partis sans que je puisse leur dire au revoir. Je me souviens l'avoir recroisé quelque temps plus tard dans notre quartier, accompagné d'une femme que j'avais trouvée très jolie. Bien plus belle que lui, avais-je pensé, intriguée par le couple qu'il formait. Nous nous étions salués sans nous arrêter, ce qui ne nous avait offusqués ni l'un ni l'autre. Ça aurait pu en rester là. Mais d'après ce qu'on dit, jamais 203, et la troisième fois que je l'ai vu, le monde avait changé. Et ce jour-là, il s'est arrêté.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va, merci. Et vous?
Tout va bien, heureusement. Je m'inquiète un peu pour mes parents qui sont très âgés, mais pour l'instant, ils tiennent le coup.
C'est fou ce que nous vivons. La conversation a duré quelques minutes, les banalités habituelles sur cette improbable situation qui bouleversait nos vies. En partant, il m'a dit « À demain !» J'ai continué mon chemin jusqu'à la rue Théodore de Banville. J'étais étonnamment bien dans ce Paris calme et déserté sous ce soleil radieux. Et puis, des heures plus tard, alors que j'avais péniblement réussi à coucher les enfants, cette « à demain » lancée sur un bout de trottoir au début d'une foulée est revenue trotter dans ma tête. Qu'avait-il voulu dire exactement? Était-ce une façon de me donner rendez-vous? Un tic de langage? Un simple automatisme? Avait-il subtilement voulu prendre congé de moi sans paraître trop brutal? Et si son « à demain » signifiait vraiment ce que ces deux mots signifient? Dès que je me suis autorisée à envisager cette dernière option, quelque chose a frémi dans mon ventre. Oui, c'était ça. Un rendez-vous. Même jour, même heure, et par mon silence, je m'étais engagée à l'honorer. J'avais replongé. Je donnerais tout pour me débarrasser de cette maladie qui m'oblige à toujours faire précisément et en toutes circonstances ce que j'ai annoncé, comme si la moindre parole échangée valait une ligne d'un contrat dûment paraffé et signé en deux exemplaires devant le notaire. C'est plus fort que moi. Avec les années, j'avais fini par comprendre, à peu près, que cette rigidité était loin d'être partagée par tous, et qu'un « on se voit ce week-end » ou « déjeunons ensemble la semaine prochaine » s'apparente moins à un engagement qu'à de la politesse ou à un élan lié à l'instant présent qui s'évanouit aussitôt formulé. J'avais dû apprendre à m'adapter et, petit à petit, accepter de ne pas me vexer lorsqu'un « je t'appelle demain » se soldait par un silence. Mais avec lui, face à lui, j'ai abandonné toute prudence et ma tendance à tout prendre pour un serment a repris le dessus. Sans doute aussi parce que c'était beaucoup plus simple de me sentir obligée par ces mots, de les laisser me déresponsabiliser, d'accueillir son « à demain » comme une injonction plutôt que comme un dilemme qu'il me revenait de trancher seul. Ne pas avoir le choix, prétendre que je n'avais rien décidé, que j'avais juste suivi le mouvement, son mouvement. Cette tyrannie que je m'impose à moi-même a quelque chose de très rassurant. Et face au vertige qui défiait toutes mes certitudes, j'avais sans doute eu besoin de cette quiétude-là. Alors je me suis ralliée à sa proposition. Le lendemain, même endroit, même heure, « Chérie, je vais promener le chien !» J'étais déçue de ne pas le trouver sur le passage piéton. Déçue et agacée aussi. Pas par lui, mais par moi. Je m'en voulais d'avoir pris ce qui n'était visiblement qu'une amabilité pour un vœu solennel. J'étais sur le point de faire le deuil de sa venue et de l'ajouter à la longue liste de mes micro-déceptions lorsque je l'ai vu débouler au coin de la rue. Alors tout a disparu. Les précautions d'usage, les élucubrations, les frustrations liées à ma maladie. J'ai oublié qu'il fallait me méfier de moi-même. Il était là, et c'était tout ce qui comptait. Je me suis enquise de la santé de ses parents comme si je les connaissais. Nous avons devisé sur les difficultés de se retrouver enfermés entre quatre murs, tout en nous rappelant que nous étions privilégiés et que d'autres étaient bien plus à plaindre. On a parlé boulot aussi. Il m'a questionné sur l'arrêt temporaire de mon émission et a lâché, dépité, quelques mots sur les conditions de détention désastreuses de certains de ses clients.